liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de boutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 47, année 2015. Salut Manu.
Salut Nico.
Salut Luc. Et pour cette 47e semaine, il n'y a pas grand-chose au menu.
Oui, on se demande bien pourquoi. Dans la 5 sections principales, c'est pas grand-chose comparé à l'habitude. Donc on va vous parler de Microsoft, d'un GUL, l'argent... Les emplois en France et le logiciel libre, l'Europe, l'informatique ouverte, on va dire, comment on peut pousser l'Europe et la France à en faire. Pour finir, un article sur la cryptographie, les djihadistes, vu par Tristan Ito.
Silicon.fr, Microsoft, le nouveau meilleur ami de l'open source, point d'interrogation, un article de Reynald Fléchot.
Alors, on m'a dit, de source sûre, que quand il y avait un point d'interrogation, c'est que c'était un troll.
Bon, là, c'est plus vraiment un troll, en fait. Hein, mais...
C'est comment annoncer un truc sans se mouiller. Hein,
ouais. Voilà. En fait, c'est Microsoft qui s'ouvre de plus en plus. Hein. Ils ont ouvert leur plateforme, ils ouvrent leur code source, ils ouvrent leurs éditeurs, etc.
L'IDE, hein, les dernières nouvelles, c'est que l'IDE, donc l'environnement de développement, alors, pas la totalité, il y a des briques, il y a des éléments importants, qui sont en train de passer en logiciel libre.
Voilà.
Alors, il faudra que vous expliquiez un petit peu, parce que c'est quand même un article qui parle beaucoup de trucs assez techniques. Ça parle de Docker, par exemple, et de ces choses-là, donc ça serait bien d'expliquer un peu en quoi ça consiste.
Ah, si on dit que c'est du cloud, ça marche ?
C'est assez nébuleux.
Non, en fait, c'est une solution de virtualisation. En fait, ça permet de faire des machines dans des machines. Et Docker, ça permet de déployer une machine complète, c'est-à-dire avec les logiciels inclus à l'intérieur. En 2-3 clics, ça fonctionne bien. C'était exclusivement du Linux jusqu'à la semaine dernière, où Microsoft a passé un partenariat avec Red Hat et Docker pour intégrer Windows à l'intérieur et pouvoir déployer des Windows comme on déploie du Linux.
Alors, en gros, moi, ce que je vois, c'est que Microsoft, ils se rendent compte qu'ils ont encore raté le train des technologies. C'est pas nouveau. Donc, ils sont en train de mettre bouchée double. Ils ont sorti tout un service Azure. Dessus, bah, il y a quoi ? Il y a du logiciel libre majoritairement. Parce que le cloud, on fait ça avec du logiciel libre aujourd'hui. Mais ils essayent de pousser. Oui, vous comprenez, Windows. Oui, non, ça marche bien Windows. Nous, qu'est-ce qu'on utilise ? Non, on n'utilise pas Windows. Mais c'est pas grave, ça marche bien quand même. Et donc là, ils poussent quoi. Ils essayent de pousser un petit peu tout ça. Là, ils poussent à la roue. Et en même temps, ils montrent un peu patte blanche. Ils développent et ils mettent du libre partout dans leurs infrastructures, dans leurs logiciels. Et ils nous expliquent, alors ça, j'adore, le fait qu'il y a encore peu de temps, tous les développements logiciels libres qu'ils faisait, c'était dans une section à part de l'entreprise, tellement à part que c'était une autre entreprise.
Ouais, ils n'avaient pas le droit de communiquer ensemble.
Voilà,
enfin, c'est
non,
vraiment séparé, il fallait surtout pas qu'on mélange.
Tu comprends, il y aurait pu y avoir un virus de l'esprit qui serait passé des gens qui font du libre aux gens qui font du vrai Microsoft. Non, non, là, non, ils ont rassemblé tout le monde, ils auront le droit de partager des cafés, de parler ensemble de licences, de code. Donc c'est une évolution qui est intéressante, mais qui vient de loin.
Alors, faut voir, il faut se rappeler qu'il y a eu un changement à la tête de Microsoft il n'y a pas très longtemps, et que la vieille garde est partie. C'était Steve Ballmer qui avait remplacé Bill Gates, sachant que Steve Ballmer était là de longue date et qu'il a continué la stratégie bourrine de on propriétarise, on ferme tout. Et le remplaçant a clairement fait un choix dans cette direction-là. Ils ont ouvert pas mal de trucs, notamment même des langages de développement qui étaient un peu un des joyaux du point de vue technique. Après, ce que je vois, c'est que moi, je pense que c'est totalement sincère leur démarche parce qu'ils font de l'open source, ils font pas du libre. C'est une logique de business et de mieux développer et ils ont parfaitement compris et intégré. Je pense que leur patron a fait ça. Il a fallu qu'il y aille, je pense, prudemment parce qu'il y a comme des stratégies de longue date et des cultures internes et qu'ils sont là pour. Comme les autres, comme les grosses boîtes, et il y a un autre article qui le stipule, hein, récolter les bénéfices de l'ouverture. En revanche, ils développent aujourd'hui de plus en plus d'outils qui sont hébergés. Ils parlent même un jour de rendre Windows gratuit. Et en fait, ce qui leur fait gagner de l'argent, c'est Office 360, qui est de la bureautique maintenant qui passe par Internet. Les nouveaux Windows, il faut des comptes Microsoft dans tous les coins. Ils sont juste en train de changer de stratégie et qui passent toujours par l'enfermement de l'utilisateur. Mais au lieu de les enfermer par du logiciel, ils vont les enfermer par du service hébergé, qui peuvent très bien faire tourner avec du libre parce que c'est plus intelligent pour eux et plus intéressant.
Mais nous, on est plutôt contents, ceci dit. Parce qu'effectivement, utiliser du service, alors, qui va peut-être être néfaste hein, pour les utilisateurs, on en doute à peine, mais en attendant, ils vont, on espère et on voit ça, mettre du code en libre. Donc il y a un espèce de côté, ils contribuent, et même si on n'attend pas des grandes choses de leur part, même si on voit d'où ils viennent, il y a quand même un bon pas, quoi. C'est une avancée intéressante. Et en tout cas, bah, ça montre à tous les autres, à tous ceux qui font du propriétaire et qui n'en démordaient pas, bah, regardez, même le plus fervent partisan de la fermeture, qui a fait des milliards avec ça, eh bien, eux-mêmes, ils sont en train de mettre leur code sur GitHub et de mettre des briques vraiment fondamentales de leur système.
Voilà, ça démontre que si Microsoft s'y met, pourquoi pas vous ? Et si eux récupèrent les bénéfices de l'ouverture, pourquoi vous n'y avez pas droit ? C'est les questions à se poser. Nouvelle République, informatique libre, une question de valeur, un article de la rédaction.
Là, c'est juste une petite présentation d'un gul, hein, donc qui est du côté de Romorantin, en Sologne, et donc
qui s'appelle
Solix. L'association Solix, et qui organise un week-end où ils vont présenter.
Ah, organisé.
Oui, voilà. Et oui, hein, c'est déjà passé au moment où on vous parle, mais ça n'empêche, c'est intéressant, et ils se présentent, et ils présentent ce qu'ils font, et justement leurs valeurs, la philosophie qui sous-tend un peu leurs actions. Donc c'est intéressant parce que ça montre que le libre, il y en a partout, et donc vous-même, faites la démarche, allez voir sur l'agenda du libre, par exemple, vous verrez, il y a plein d'événements partout en France, et il y en a d'autres ailleurs, mais c'est pas répertorié là-dessus. Donc des gens vraiment intéressants, sachant qu'il y a des petites perles, hein, dans ce qu'ils expliquent.
Oui, notamment, ils expliquent que du libre, il y en a partout. Dans certains endroits, ils expliquent que c'est très répandu, notamment dans le domaine de la chimie, c'est une chose qu'on ignorait tous les trois.
Ouais. Apparemment, il y a que ça là-bas, ils n'utilisent que du logiciel libre, donc voilà. C'est très, très bon exemple. Il y a aussi, ils citent aussi la gendarmerie nationale, effectivement, qui a fait un grand switch de Microsoft vers Linux et qui contribue très fortement à Thunderbird en particulier, donc un outil de mail, de gestion de mail, et qui, ils ont sécurisé pour leurs besoins et qu'ils ont contribué au logiciel libre comme ça.
Ouais, donc bravo à Solix, on aime bien parler de ce que font les gules dans la revue de presse parce que c'est très important. Journal du Net, le logiciel libre représente 50 000 emplois et 4 milliards d'euros en France, un article d'Antoine Crochet-Damé.
Voilà, donc des gros chiffres comme on en présente toutes les semaines, donc avec encore des 50 000 emplois, 4 milliards d'euros, 3 000 recrutements par an.
Toutes les semaines, et c'est pas toutes les semaines qu'il y a des études sur le libre, hein, c'est plutôt le reste de l'informatique qui va parler de son bénéfice, ce genre de choses. Là, on a vraiment une étude sur le libre et sur le libre côté open source, côté business.
Moi, je trouve qu'il y a encore mieux que des gros chiffres, il y a une grosse infographie, elle est magnifique,
elle est super bien fait.
Et qui montre des gros chiffres. Oui, effectivement, des nombres sympathiques à coût de milliards d'euros, de gros pourcentages. Compare donc les pourcentages d'évolution de croissance dans le monde du logiciel libre comparé aux croissances dans le monde du logiciel propriétaire. Donc des choses sympas, mais graphiques. C'est très joli.
Voilà, la chose qui m'a marqué, en fait, c'est que c'est surtout soutenu par le Syntec numérique, qui est pourtant un gros pourfendeur de logiciels libres. Donc effectivement, ça a été présenté avec le Conseil national du logiciel libre et le Syntec numérique. Ça change vachement les choses, hein, parce que le Syntec a pourtant très souvent tapé sur le logiciel libre, ils veulent pas en entendre parler, ils ont fait des lettres partout au ministère, et puis là, dès que ça peut leur apporter un peu d'emploi et de thunes, on en parle et on met ça en avant.
Oui, faut dire que l'étude montre qu'il y a de plus en plus d'importance au libre. Il y a quelques années, on en parlait dans la revue de presse en disant que c'était de l'ordre de 6% du marché qui était pour le logiciel libre, on est monté à 14% aujourd'hui, et la croissance du libre, toujours dans cet aspect business, est trois fois plus rapide que celle du propriétaire, donc c'est quelque chose qui se développe très vite, et la Syntec, ils sont bien obligés de s'aligner aussi surtout leurs adhérents, y compris ceux qui font du libre.
Oui, et puis n'oublions pas, ça c'est très politique et pas juste économique. Il y a de l'emploi derrière, parce que le libre, ça fait partie de ces choses intéressantes. C'est que souvent, on peut en faire localement. On n'est pas bloqué avec des fournisseurs qui seraient à l'étranger. On peut vraiment booster les chiffres, booster les nombres d'employés locaux. C'est vraiment pas mal. C'est des emplois en plus de haut niveau, bien payés. Je sais de quoi on parle.
Les Échos, informatique ouverte, pourquoi la France et l'Europe doivent devenir contributeurs et plus seulement consommateurs. Un article de Cédric Thomas.
C'est dans la foulée de ce qu'on disait juste avant. Jusqu'à aujourd'hui, les gros qui contribuaient au libre et qui faisaient du libre, c'était du Google, du Microsoft, toutes les grosses industries états-uniennes et aussi toute la partie chinoise, Asie, qui booste énormément sur le sujet. Et la France, et l'Europe en général, on est plutôt à la traîne, on est très poussif sur le sujet, on veut pas y aller vraiment de front. On a bien vu avec les réactions d'Axel Lemaire et autres, faut pas brusquer les gens, faut pas faire de loi, et donc on risque de se faire déborder par les gros qui, eux, n'hésitent pas à montrer des dents.
Dans leur orbite. Alors, Cédric Thomas est, en gros, le patron du consortium OW2 EVP International de Paris Open Source Summit. C'est quoi ce truc?
Alors, OW2, c'est une espèce de consortium où ils font plein de briques logicielles. C'était un agencement entre France Télécom, l'INRIA et Bull, je crois, à une époque. Donc, des gros en France, des vieux un peu, mais des gros quand même, et qui faisaient des briques assez intéressantes, qui n'ont pas réussi à beaucoup sortir de la France, qui sont très utilisés à EDF par exemple, et dans d'autres sections, dans de grosses boîtes. Donc en tout cas, c'est quelqu'un qui sait un peu de quoi on parle, il est bien implanté, et il sait à quel point il faut continuer à y contribuer au logiciel libre en France, en Europe.
Voilà, on a pas mal d'articles qui parlent d'open source et de business cette semaine, parce qu'il y avait un salon...
L'open source summit, justement.
Voilà, qui s'est déroulé la semaine dernière à Paris, et donc c'était l'occasion, tous ces éléments. Ce que je trouve intéressant dans cette tribune, qui est une tribune, le mec est engagé, c'est qu'elle parle d'un aspect géostratégique, stratégique de développement, etc. C'est pas juste quelqu'un qui dit bon, nous on fait du libre, on est des boîtes, achetez nos trucs parce que c'est bien. Et d'un point de vue purement technique, ils parlent de politique également. Et ça, c'est quand même intéressant.
Je remarque une petite chose, le courage qu'ils ont eu de faire quand même le sommet. Ils étaient basés à Saint-Denis. C'était pas pratique les jours où ils ont fait ça deux jours, hein, comme prévu. Les jours où ça s'est déroulé, il y avait en même temps des CRS qui arrivaient en grand nombre à Saint-Denis même, un petit peu plus loin. Donc c'était le bordel. Ils avaient engagé trois fois plus de forces de sécurité pour essayer d'organiser, de gérer tout ça. Il y avait moins de monde que prévu, hein, normal. Bon, mais on peut quand même applaudir parce que c'est pas mal d'arriver à tenir un petit peu leurs engagements. Dans ce genre de contexte, c'était vraiment difficile.
L'opinion, Tristan Ito, combattre la cryptographie n'affaiblira pas les djihadistes. Un article de Hugo Sedouraman. Donc bah voilà, on fait le lien avec Saint-Denis et les événements qui sont passés la semaine dernière. Tristan Ito, on ne le présente plus, on va le présenter quand même. C'est donc lui qui avait monté la Fondation Mozilla en Europe, etc. Donc Firefox. Il a quitté le projet il n'y a pas très longtemps pour aller travailler sur un autre projet.
Projet personnel cette fois-ci.
Oui, qui est une entreprise.
Une entreprise et voilà. Il veut sortir un bouquin aussi.
Voilà, il a rejoint une entreprise qui fait des solutions d'hébergement, etc., et qui s'appelle Cozy Cloud, et il continue à s'exprimer, etc., et là, il parle, voilà, de chiffrement, de cryptographie, puisqu'avec la saison qui fait, les événements qu'on a eus, il y a des gens qui disent, ben voilà, il faut interdire aux gens de chiffrer leurs données et leur interdire d'échanger de façon cryptée.
Alors, sachant que quand tu dis les gens, il y a les États-Unis qui vont bien fort, qui retapent sur Snowden en disant que c'est de sa faute, qu'il y a eu plein de morts. La Grande-Bretagne
aussi qui a interdit la crypto.
Ils sont en train de poser des trucs et ils sont en train de poser le fait qu'il y aura forcément ce qu'on appelle des backdoors, des portes par derrière, mais réservées aux institutions, soi-disant, parce que bonne chance pour être sûr que ce soit pas utilisé par d'autres. Et donc, en France, on a un petit peu peur maintenant de ce qui va arriver. Alors, toi, Nico, t'es bien là-dedans.
Moi, je suis là-dedans. Et c'est vrai qu'on a vu les politiques, même en France, hein, réclamer la mort de la crypto en général, demander à ce qu'on puisse pas échanger par téléphone de manière chiffrée, qu'on puisse pas utiliser les systèmes qui ont été développés par Apple et Google, qui pour une fois ont bien fait les choses. Et donc, ils aimeraient bien que, en gros, la police, le judiciaire ou l'État puissent avoir accès à nos communications les plus privées, y compris les communications chiffrées. Et donc là, Tristan Ito dit, c'est pas possible, en fait, d'arriver à ça, parce que si on met des backdoors dedans, donc les backdoors, ça permettra à l'État de s'introduire chez vous.
Ou n'importe qui serait assez malin pour s'en servir, voilà.
Ou n'importe qui serait assez malin et on fait confiance aux hackers pour retrouver les failles et pouvoir rentrer. Et en fait, on peut pas.
Parce qu'une backdoor, hein, de par nature, ça affaiblit la sécurité. Ouais. Et donc, même si c'est destiné qu'à certaines personnes, la sécurité étant affaiblie à un endroit donné, il n'y a pas plus simple que d'aller taper à cet endroit-là.
Et donc, en fait, l'interdiction de la crypto a deux problèmes. C'est qu'effectivement, déjà, l'interdiction avec les backdoors et autres, c'est compliqué à maintenir sous le contrôle de l'État, c'est complètement impossible, ça finira de toute façon par fuiter et avec les conséquences abominables que ça peut avoir. Et en plus de ça, ça fait aussi qu'on n'a plus aucun moyen de communication fiable et sécurisé et privé.
Et de faire du commerce, hein, parce que le commerce nécessite vraiment de manière très importante le chiffrement, le cadenas, hein, que vous avez sur votre navigateur. Sans lui, vous pourriez pas faire des achats, vous feriez pas des achats, vous iriez pas sur votre banque, ça casserait une grosse dynamique des économies.
Et donc il n'y a plus d'économie possible, il n'y a plus de vie privée possible, et donc on tombe dans un monde qui est vraiment pas cool et joyeux, et aujourd'hui, pourtant, c'est ce qui est en train de se profiler. On l'a vu aux États-Unis, on l'a vu en Grande-Bretagne et on le voit arriver de plus en plus en France.
Donc, il faut résister, il faut déjà se préparer. Les djihadistes aujourd'hui, dont on connaît un petit peu le mode opératoire, n'ont pas utilisé ces outils-là. Donc, c'est toujours assez amusant de se dire non, on va les empêcher de refaire la même chose. Non, de toute façon, c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Donc, il faut un petit peu analyser, il faut regarder les vraies failles de nos systèmes aujourd'hui. Et puis, il y a peut-être d'autres points sur lesquels travailler avant d'affaiblir notre sécurité, puisque c'est de ça dont il s'agit, hein, enlever du chiffrement, c'est affaiblir notre sécurité. Donc, d'une manière ou d'une autre, c'est mal barré. Donc, on va essayer de résister dans ces moments difficiles, voir ce que nous donne l'avenir à court terme, en espérant que ça empire pas.
On peut l'espérer. Bon, en tout cas, on a fait le tour de cette revue de presse. On tiendra probablement jusqu'à la semaine prochaine avant d'être arrêté et mis en prison. Non, ça me fait un peu de paranoïa. Mais il faut un petit peu de temps en temps, ça fait pas de mal. Très bien. Bon, en tout cas, bonne semaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, tout le monde.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fiévet et Nicolas Vinault.